qui me fatigue, une porte ouverte comme ça. Donc, bon, c'est juste une petite faiblesse. Vous allez prier pour le pasteur, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes content d'être ici ce matin? Alléluia, moi aussi. On est ici pour louer le Seigneur, pour adorer son nom, mais pour recevoir de lui dans le but de pouvoir donner davantage à lui et donner davantage à notre monde. Le monde a besoin de Jésus. C'est-à-dire que le monde a besoin de nous. Parce que si le monde va voir Jésus aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont le voir? C'est en nous, l'Église. Donc ce matin, j'aimerais vous inviter, avant d'aller dans la parole, de faire une déclaration de la foi qu'on fait souvent, presque tous les dimanches, si pas tous les dimanches à la vie comblée. Je vous invite à prendre votre Bible. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, prenez la feuille que je vous ai donnée avec les versets marqués dessus et on va faire cette déclaration. Parce que ce que on dit avec la bouche et croit de notre cœur s'accomplit. C'est un principe biblique, c'est une loi spirituelle. Donc, Père, au nom de Jésus, on va faire cette déclaration. Et voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Dans ce livre, je trouve mon identité. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Dans ce livre, je trouve ma provision. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Dans ce livre, je trouve ma capacité. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais changé et transformé au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Matthieu chapitre 16. Regardons ce matin. Comme j'ai dit la semaine passée, d'habitude dans le mois de janvier, on va faire quelques dimanches où on parle de nos objectifs, notre vision, nos buts pour l'année. Mais j'avais vraiment la conviction dans mon esprit que ça c'était supposé d'être un peu différent en 2005. Pas faire les choses comme on a toujours fait, pas faire le status quo, mais vraiment prendre le temps de revoir et de re-examiner les choses de base, les fondements, le pourquoi on fait, qu'est-ce qu'on fait. Parce que, en fait, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de communiquer la vérité que ce que tu es est tellement plus important que ce que tu fais. Et quand on parle d'un individu, c'est vrai. Quand on parle d'une compagnie, c'est vrai. Mais quand on parle de l'Église, c'est vrai. Ce qu'on est en tant qu'Église est beaucoup plus important que qu'est-ce qu'on fait. Parce que qu'est-ce qu'on est va déterminer nos actions. Amen? On sait que une pommier, automatiquement, va faire quoi? Porter des pommes. Hein? Un oranger va faire quoi dans la vie? Porter des oranges. On sait, c'est une loi. Et une Église en santé, si l'Église est vraiment en santé et si l'Église est qui elle est supposée d'être, elle va automatiquement porter son fruit. Et le fruit qu'elle va porter, c'est le fruit des âmes et le fruit de l'esprit. Amen. Donc, c'est pourquoi pendant quelques semaines, je ne sais pas combien de temps, si ça va juste cette semaine ou peut-être encore la semaine prochaine, on va voir encore une fois l'importance de l'Église de Jésus-Christ. Parce que dans le passé, je pense qu'on a eu deux extrêmes. On a eu des certaines traditions religieuses qui ont mis tellement l'accent sur l'Église, mais pas dans le bon sens, mais dans un mauvais sens. Ils ont mis l'accent sur les édifices et sur les institutions humaines qu'on appelle l'Église. Mais ça, c'est pas la vraie Église. Amen? Et parce qu'il y avait tellement de personnes qui ont été abusées et qui ont eu les déceptions et des problèmes avec les institutions religieuses, quand ils ont découvert la vie nouvelle en Jésus-Christ, quand ils ont été nés de nouveau, il y a des personnes qui sont allées à l'autre extrême. Ils ont dit, mais moi j'ai Jésus, j'ai pas besoin de l'Église. Et qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Que c'est, il est impossible, vraiment, d'avoir une bonne relation avec Jésus sans avoir une bonne relation avec son Église. On a vu qu'il n'y a rien de plus important sur la terre que l'Église de Jésus-Christ. On a vu qu'il n'y a rien de plus cher aux yeux de Dieu que l'Église de Jésus-Christ. En fait, Jésus appelle son Église son épouse. Et Jésus a versé son propre sang. Il a souffert cruellement sur une croix. Il était séparé d'avec son Père pour un seul but, pour acheter pour lui-même une Église. Et quand on parle de l'Église universelle, qui est à la fois au ciel et sur la terre. Tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ font partie de son Église. Et aujourd'hui, il y a des milliers et peut-être des milliards d'âmes au ciel qui croient, alléluia, qui ont cru et qui sont dans la présence même de Dieu. C'est mes frères, mes sœurs, c'est vos frères, nos sœurs. Mais aujourd'hui, sur la terre, que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine ou en Afrique ou en Australie, ou n'importe quel continent, quelle nation sur la terre, tous ceux et celles qui ont cru en Jésus-Christ font partie de la même famille, c'est-à-dire de la même Église. Je fais partie d'une grande famille. Nous faisons partie d'une grande famille et il n'y a rien de plus important aux yeux de Dieu que son Église. Donc, on ne peut pas avoir une attitude négative par rapport à l'Église. Il faut honorer l'Église. Il faut aimer l'Église. Il faut même être prêt à mourir pour et donner sa vie pour l'Église. Amen? Et si, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est 1 Jean 3,16 qui le dit. On va voir ça peut-être plus tard. Mais en Matthieu chapitre 16, verset 15, Jésus, est-ce que vous croyez que ces paroles sont dignes de confiance? C'est Jésus qui parle et il dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux ou béni, Simon, fils de Jonas. » Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc Jésus, il parle avec ses disciples, et un de ses disciples a la révélation de qui est Jésus, son identité, qui n'est pas un prophète. Il n'est pas Jean le Baptiste ressuscité des morts, mais qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, c'est pas la chair. C'est pas un homme qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a donné cette révélation. Tout le monde dit révélation. Et Jésus a tout de suite dit, et je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, sur cette révélation, c'est quoi la pierre? C'est la pierre de la révélation. Je bâtirai mon Église. Je vais bâtir mon Église sur la révélation du fait que Jésus est le Fils de Dieu. Et les portes du séjour de mort ne prévendront point contre l'Église. Est-ce que vous savez que l'Église de Jésus est la chose la plus puissante, plus redoutable sur la planète et dans l'univers entier? Il n'y a aucune armée, aucun pays, aucun gouvernement qui est plus fort ou plus puissant que l'Église de Jésus-Christ. Et je ne parle pas juste de l'Église de Jésus-Christ au ciel, mais je parle de l'Église de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi il a dit tout de suite, « Et sur ce roc, je bâtirai mon Église, les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. » Et regarde bien la prochaine chose, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Aujourd'hui, ce matin, avant la réunion, mon fils a dit, « Papa, j'ai oublié un de mes souliers dans l'auto. » L'auto était barré, donc je lui ai donné la clé. Mais j'ai dit, « Est-ce que je peux te faire confiance avec cette clé? Tu vas pas la barrer dans l'auto, hein? » Il a dit, « Non, non, non. Tu peux faire confiance. » Je dis, tiens. Donc, il prend la clé, il va ouvrir la porte, il cherche ses souliers et il revient avec la clé, tout fier. Hein? Vois-tu, hein? 9 ans, il est grand, il peut ouvrir la porte lui-même, mais il revient avec la clé. Papa, je l'ai faite. Mais Jésus nous a donné la clé du royaume. Et tout ce que nous lions ici sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que nous délions sur la terre. On ne parle pas d'une église victorieuse seulement au ciel, mais on parle d'une église victorieuse, redoutable, triomphante, indestructible et inébranlable ici sur la terre aujourd'hui même. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils ne savent pas qu'ils sont autorisés pour marcher dans la victoire. Ils ont la clé qui ouvre la porte à n'importe quelle bénédiction dont ils ont besoin, n'importe quelle provision dont ils ont besoin. Nous avons la clé, mais la clé qui est dans le poche, ça ne change rien. La clé entre vos mains, la clé qui est utilisée, ça peut tout changer. Et je suis convaincu que la plupart des chrétiens, c'est comme moi une fois, je pensais être débarré. Et que la porte était barrée, je n'étais pas capable d'entrer dans ma maison. Je ne savais pas que j'avais quand même la clé dans ma poche. Je ne la voyais pas. Donc, je n'entre pas dans la maison parce que je pense que j'ai besoin d'une clé. Mais la réalité, c'est que j'avais la clé sur ma personne. Combien de nous n'entrons pas dans les bénédictions de Dieu? Nous n'entrons pas dans la victoire que Dieu nous a pourvue parce qu'on pense que la porte est barrée. Je peux pas être guéri. Je peux pas être prospère. Je peux pas faire grand chose dans la vie. Mais Dieu nous a donné la clé. Amen? Mais c'est pas une clé qu'on va juste utiliser individuellement. C'est aussi une clé collective. C'est-à-dire que nous sommes une église, une famille. Nous sommes un corps. Et ma victoire et votre victoire sont liées ensemble. Si j'ai du succès, vous avez du succès. Si vous avez du succès, j'ai du succès. Nous sommes ensemble le corps de Jésus-Christ. Amen? Alléluia. Matthieu 16 encore. Je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. Beaucoup de gens, ils n'ont pas de la difficulté à croire que Dieu est capable de bâtir une église universelle qui est redoutable et inébranlable. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est capable de faire ça? Mais c'est quoi l'Église universelle? L'Église universelle est comprise des églises locales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une Église universelle qui est victorieuse à moins que les églises locales soient victorieuses. Donc Jésus est en train de dire, je bâtirai l'Église universelle, les portes de séjour de mort ne prévendront pas contre elle, mais Jésus dit également, je bâtirai les églises locales. Comprenant la vie comblée et les portes du séjour de mort ne prévendront point contre notre assemblée locale. Nous sommes destinés à avoir la victoire. Mais c'est quoi une église locale? Est-ce que c'est un bâtiment, les chaises, l'utrin? Non, c'est nous, c'est vous, les êtres humains, les individus rachetés par le sang de Jésus. Donc, est-ce que vous saisissez qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, je vais te bâtir. Nicole, je vais te bâtir et les portes de séjour de mort ne prévendront point contre toi. L'ennemi ne peut pas te vaincre. L'ennemi ne peut pas t'écraser si tu te laisses bâtir par lui. Amen. Il y a des églises qui ne fonctionnent pas comme il faut et qui sont écrasées parce qu'ils ne se laissent pas bâtir par celui qui est le chef. Hein? La Bible dit dans les psaumes 127, c'est marqué que si l'Éternel ne bâtit la maison, il travaille en vain. Donc, si quelqu'un essaie de bâtir une église avec la chair, sa propre force, ça ne marchera pas. Si une personne essaie de bâtir sa famille, sa vie personnelle, sans se laisser bâtir par le chef, il travaille en vain. On a un choix devant nous. On peut se laisser bâtir par Jésus et avoir une vie qui est toujours et en tout temps et à tout moment victorieux où on peut essayer de faire les choses selon notre volonté et on peut échouer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Réussir. Donc, un couple de choses dans vos notes que je veux souligner. Sur la première page dans vos notes, j'ai marqué qu'ensemble, nous sommes la maison de Dieu. Que Jésus est en train de bâtir. Il est un bon constructeur, un bon entrepreneur, un bon contracteur. Vous êtes d'accord? Nous sommes la maison de Dieu. Lisons juste ces versets. Éphésiens 2, 18 dit, « Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Tout le monde dit, « Je fais partie de la maison de Dieu. » Vous avez, vous, pluriel, avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, souligne ce mot édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En vous, en lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il va vous bâtir individuellement, mais pas indépendant des autres membres du corps. Nous, ensemble, nous faisons la maison de Dieu, une habitation de Dieu. Dieu habite dans son corps. Souvent, on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. On parle de notre corps physique comme étant le temple du Saint-Esprit. Et c'est vrai en partie. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas moi qui est le temple du Saint-Esprit, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen? Parce que moi, j'ai en mesure de l'Esprit Saint, j'ai une partie de la présence de Dieu dans ma vie, mais je n'ai pas toute la présence de Dieu. Mais vous avez votre partie. Et mon frère, ici et là, ils ont d'autres parties. Et quand on vient ensemble, nous devenons le temple du Dieu vivant, et Dieu, dans son intégralité, habite en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu. La maison de Dieu que Jésus est en train de bâtir. Et ici, on voit, deuxième chose dans votre note, que dans la maison de Dieu, Jésus-Christ est la pierre angulaire et chaque individu est une pierre vivante. Tout le monde dit, je suis une pierre vivante. Est-ce que ça veut dire que vous avez une tête dure? J'espère que non. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Jésus aussi est une pierre vivante. Il était mort, il est ressuscité, il est vivant. Amen. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Comment on dit, je suis une pierre vivante. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle en saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale, et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. J'étais dans les ténèbres, mais Dieu m'a appelé dans son admirable lumière, et là, maintenant, je fais partie, je suis une pierre vivante dans une grande maison de Dieu. Et j'ai un rôle indispensable à jouer aussi. Vous, au contraire, on va continuer, verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Jésus est la pierre angulaire sur laquelle nous sommes tous bâtis, mais nous sommes bâtis pas indépendamment des autres, mais ensemble, nous sommes liés ensemble. Vous savez que quand ils ont construit le temple de Dieu à Jérusalem, qu'ils ont eu des grandes pierres énormes qui pesaient des tonnes, je ne sais pas exactement, je m'en souviens plus, je le savais autrefois, mais ça pesait énormément. Mais savez-vous une chose intéressante? Que quand les pierres ont été transportées sur le site pour les mettre dans le temple, ils n'avaient aucun droit d'utiliser un marteau. Il fallait pas avoir le son d'un marteau sur le site de chantier. Il fallait pas entendre ce bruit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans les champs, ailleurs, loin de la place où ils étaient mis ensemble, chaque pierre a été taillée et travaillée. Et taillé et travaillé. Donc, les marteaux ont été utilisés, il y avait du bruit, mais quand c'était le temps de les transporter, et ils arrivent là, à Jérusalem, sur le site pour mettre la pierre dans le temple, c'était déjà exactement la bonne dimension, et la pierre était capable d'être glissée en place.
Des fois, dans les églises, on a du bruit, n'est-ce pas? Des personnes qui se chicanent, des personnes qui sont offensées, des personnes qui sont pas contentes avec le pasteur, avec les autres. On ne devrait pas avoir un bruit comme ça à la maison de Dieu. Amen? On devrait, et gloire à Dieu, dans cette église, on entend très rarement. Des fois, il y a un petit marteau qui veut être utilisé, tout de suite, on dit non, au nom de Jésus, on marche dans l'amour ici. Amen. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Chacun de nous, individuellement, on a besoin de donner la permission à Dieu. Seigneur, taille-moi. Fais de moi qui tu veux que je sois. Change mon attitude. Change mon comportement. Fais ça dans ton temps de dévotion chez toi. Amen. Comme ça, si vous prenez le temps dans la présence du Seigneur d'être taillé et vraiment préparé, quand vous arrivez à l'église, vous allez fitter avec les autres. Amen. Et ensemble, nous allons former une maison solide, une habitation de Dieu en esprit, où la gloire de Dieu peut remplir le temple. Amen. Et quand les gens de l'extérieur viennent, ils vont voir la gloire de Dieu au lieu d'arriver sur un site de chantier où il y a de la poussière partout, il y a du bruit partout, ils vont voir la gloire de Dieu. Amen. On est l'Église de Jésus-Christ. Jésus bâtit son Église, mais il faut se laisser bâtir par lui. Il y a un verset qu'on veut lire aussi en 1 Corinthiens chapitre 3, si vous avez votre Bible, ou si vous voulez regarder dans vos notes, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Vous savez que c'est une collaboration. Jésus bâtit son Église. Mais Jésus ne va jamais forcer sa volonté sur qui que ce soit. Si vous ne voulez pas être bâti, si vous ne voulez pas être taillé, Dieu ne va pas forcer qui que ce soit. On a besoin de lui donner la permission, de dire, Seigneur, tu veux me bâtir? Voilà, je te donne la permission. Travaille mon cœur, change-moi. Ici, en 1 Corinthiens, chapitre 3, nous voyons un verset intéressant. Moi, je vais lire cela de la Bible du français courant, qui dit, « Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. » En fait, il y a d'autres versions qui disent, « Nous sommes les co-ouvriers, nous travaillons avec Dieu. » Vous êtes le champ de Dieu. En fait, vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Tout le monde dit, « Je suis l'édifice de Dieu. » Verset 10, « Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâti dessus. Mais il faut que chacun, cela veut dire moi et cela veut dire vous, il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. » Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a plusieurs moyens pour aller au ciel. Même ceux qui enseignent la religion dans les écoles publiques, ils disent que, oh, mais dans le fond, il y a c'est juste un Dieu, mais il y a des personnes qui l'appellent Allah, d'autres personnes qui l'appellent Jéhovah, d'autres personnes qui l'appellent telle chose, mais c'est toute la même affaire. C'est pas toute la même affaire. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ, l'homme. Et si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous n'avez aucun fondement pour votre vie. Si vous n'avez pas Jésus dans votre mariage, vous n'avez aucun fondement pour votre mariage. Si vous n'avez pas Jésus dans votre affaire, votre commerce, vous n'avez aucun fondement. N'est-ce pas vrai? Bon, il dit ici, en verset 12, « Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité, pas la quantité, mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, autrement dit, qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. On parle de l'Église de Jésus-Christ. Janvier 2005. J'aurais jamais cru qu'on serait toujours là en 2005. J'étais certain qu'on aurait été déjà enlevé avant 2005. Mais Dieu n'est pas encore satisfait. La moisson est encore trop grande. Il y a encore trop d'âmes qui sont perdues, trop de nations qui n'ont pas été atteintes, et Jésus attend le précieux fruit de la terre avant de revenir. Mais le précieux fruit de la terre ne va pas être récolté à moins que l'Église prenne sa place dans cette primordiale dans l'histoire. On est dans un temps stratégique de l'humanité. Jésus revient bientôt, mais il attend le précieux fruit de la terre. Et nous avons un privilège maintenant de voir l'Église de Jésus bâtie et devenir une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une Église glorieuse. C'est-à-dire que si l'Église universelle va être glorieuse, il faut que notre Église soit glorieuse. Et il faut que votre vie soit glorieuse. Votre vie personnelle, notre église locale, il faut qu'on soit rempli de la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Une église glorieuse. Pour que l'église soit glorieuse, il faut que le temple soit bâti, parce que dès que le temple était bâti, la gloire de Dieu a rempli le temple. Comment est-ce que l'église va être bâtie? C'est quand Jésus a la permission et l'autorité et le droit de faire son œuvre dans notre cœur sans compromis. Est-ce que vous êtes prêts à laisser le Seigneur travailler votre cœur? Ici, on voit comment. Il a dit dans le verset qu'on vient de lire qu'il n'y a aucun autre fondement qui peut être posé sauf Jésus-Christ. Et je crois et j'espère que presque tout le monde, si pas tout le monde ici, est déjà né de nouveau. Vous avez déjà reçu Jésus comme pierre angulaire dans votre vie et que le fondement est en place. Mais maintenant, le fondement est là. Je veux que vous voyez votre vie et même notre église. Le fondement, le béton est coulé. C'est coulé dans le béton. Amen? Mais, c'est à vous maintenant, c'est à nous de bâtir sur le fondement. De bâtir soit seul, à notre gré, comme on veut, ou de bâtir avec lui comme les ouvriers avec Dieu. Et est-ce que vous avez remarquez, on peut choisir nos matériaux. On peut bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. On peut bâtir avec du bois, du chaume et du foin, du paille. Et chaque âme va un jour, et chaque église un jour va être face à face avec Jésus. Et tout ce qu'on a fait dans notre vie, tout ce qu'on a bâti avec le Seigneur ou soi-même, va passer par un feu. Et tous ceux qui résistent au feu va durer et on va avoir une récompense. Tous ceux qui résistent pas au feu va disparaître. Le fondement, hein, je veux que vous imaginez, chacun de nous, on est comme une maison, on passe par un feu, et il y a quelques-uns qui vont, ils vont sortir du feu, et on va voir les murs, le toit, qui est intact, parce que c'est fait en or, argent, et pierres précieuses. Il y a d'autres qui vont passer par le feu, et tout ce qu'on va voir, c'est un slab de béton. Wouh! Et des cendres. Bon, il n'y a plus rien qui reste. Juste Jésus. Mais gloire à Dieu, Jésus est là. C'est pourquoi la Bible dit, eux autres, ils vont être sauvés. Mais comme quelqu'un qui s'échappe du feu. Hein? Et j'ai toujours eu cette image quand j'ai lu ce verset d'une personne dans la maison la nuit et la maison prend feu. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre le temps de prendre la douche, se raser, s'habiller, amener ses affaires? Non, il va sentir quelque chose, il va peut-être ressentir la chaleur, il va dire, la maison a pris feu, on se sauve! Et il se trouve devant sa maison, qui est en flamme, peut-être juste dans ses sous-vêtements, dans la rue, ça sent le feu, mais il est sauvé. Qu'est-ce que vous voulez, lors de votre jugement? Est-ce que vous voulez être devant le trône de Dieu, tout habillé, tout bien, sachant que vous avez fait la volonté de Dieu, entendant le Seigneur dire, bien fait, mon bon et fidèle serviteur, ou est-ce que vous voulez être quelqu'un qui arrive et dire, wouh! Wouh! Je suis là! Je suis sauvé! c'est à nous de choisir. On a le choix. On peut choisir. Est-ce qu'on va bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou est-ce qu'on va bâtir avec du bois, du foin, du chaume ou de paille? Dans vos notes, la deuxième page, on va juste finir avec un couple d'exhortations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir une vie qui résiste au feu? Hein? Posez-vous la question, est-ce que votre vie est résistante au feu? Est-ce que ma famille est résistante au feu? Est-ce que mon église est résistante au feu? On a déjà eu l'expérience dans cette église que l'église, la bâtisse, a passé par un feu. Tout perdu, sauf ce qui était le plus important, c'est les êtres humains. Amen. Par la grâce de Dieu, on déclare que ça ne va jamais plus arriver au nom de Jésus. Amen. Mais, laisse-moi vous dire une chose, hein? Quand on voit les choses passer par un feu, c'est quelque chose. Quelque chose. Mais votre vie, est-ce qu'elle est résistante au feu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir avec le Seigneur Jésus une vie résistante au feu? Numéro un, bâtir avec de l'or en faisant tout pour la gloire de Dieu. L'or, souvent, dans la Bible, représente la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, tout ce que le Seigneur veut qu'on fasse dans notre vie, il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que je fais qu'est-ce que je fais? Alors, donc, je vous lance le défi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à la fin de votre vie, de vous poser la question, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? En tant qu'Église, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Posez-vous la question. Parce que si vous ne faites pas tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, il se peut que vous travaillez en vain, que vous bâtissez avec du bois, ou du foin, ou du pain, et que votre maison ne va pas être résistante au feu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et le verset qui est dans vos notes dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Demandez tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non pas mon avantage, mais celui de plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Posons-nous la question, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on le fait? Que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et des personnes religieuses qui vont avoir l'idée que, bon, c'est-à-dire qu'il faut que, 24 heures sur 24, il faut que je sois aux genoux, que je prie, que je lis ma Bible. Non, parce que si vous êtes toujours à genoux dans ta chambre, comment est-ce que tu vas témoigner? Comment est-ce que tu vas toucher les vies des autres? Des fois, tu as besoin d'aller jouer au golf avec un voisin. Mais jouer au golf pour la gloire de Dieu. Tu as un but. C'est pas juste d'avoir un bon score hein, sur le terrain de golf. Mais c'est ça. On veut gagner celui avec qui on joue au Seigneur. Quand tu vas travailler, c'est pas juste parce que moi, je vais faire vraiment quelque chose dans ma vie, je vais gagner un million et je vais ramasser des trésors ici sur la terre. Non, vous allez travailler, vous allez prospérer, mais prospérer dans le sens de pouvoir être un bon témoignage, de dire à tout le monde que regarde, Dieu est un bon Dieu, il prend soin de ses enfants, il pourvoit nos besoins. On n'est pas obligé d'être pauvre qu'annoncer le Seigneur, mais mon but, c'est pas juste d'avoir du fun, du plaisir, mais mon but, c'est pour glorifier Dieu. Tout ce que tu fais, que tu mangeais, que tu buviais, il faut qu'on se juge. On mange pas, il faut apprendre à manger pour vivre, pas vivre pour manger aussi. Le Seigneur m'a discipliné là-dessus même. Dernièrement, je commence à prendre plus soin de mon temple. Mais il faut qu'on soit discipliné, il faut qu'on soit sérieux dans la vie. On fait qu'est-ce qu'on fait. Sérieux, mais pas triste. Tu comprends? Il y a un équilibre. On devrait rire, on devrait avoir du fun, on devrait avoir du plaisir. Vous auriez dû être là hier, quand on a fait le cours. Il y avait des gens qui riaient, on a eu un bon temps ensemble. C'est la joie de l'Éternel qui était à manifestation. C'est bon, ça. Vois-tu, on n'a pas besoin d'avoir l'air d'être baptisé dans le jus de citron.
Je fais tout pour la gloire de Dieu. Je peux.
Si vous allez faire quelque chose, faites-le pour la gloire de Dieu. Ayez du fun, ayez du plaisir. Soyez pas légaliste dans votre vie. Faites des choses agréables. Jouez au sport. Allez, faites des choses. Jouez avec vos enfants. Allez glisser avec vos enfants. Faites des choses, mais faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, parce que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Comme Matthieu 5, verset 16 dit, que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, bâtissez avec de l'or en faisant tout pour la gloire de Dieu. Numéro 2, bâtir avec de l'argent en amenant le message de la rédemption. Tout le monde dit rédemption. Au monde. Souvent, dans les Écritures, on voit que l'argent est un symbole de la rédemption. On voit les personnes rachetées avec tant de cycles d'argent, etc. Mais on voit que l'argent représente souvent la rédemption. Donc, si je vais bâtir une vie qui va résister au feu, il faut que je bâtisse ma vie avec de l'or pour la gloire de Dieu, mais il faut que je mette mon énergie et mon temps et mes talents et mon trésor dans le but de gagner les âmes au Seigneur Jésus. D'apporter le message de la rédemption. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Et qu'est-ce que le monde a besoin de savoir? C'est que Jésus fut pendu au bois pour nous délivrer du péché, délivrer de la maladie et nous délivrer de la pauvreté. Amen. Et on devrait, si vous voulez avoir une vie qui compte pour l'éternité, si vous voulez passer votre maison spirituelle, passer par le feu et avoir de quoi, vous voulez toujours avoir des murs et un toit au lieu de juste un slab de béton, baptisez avec de l'or pour la gloire de Dieu. Baptisez avec de l'argent en amenant la rédemption au monde. Votre temps, vos talents, votre trésor et même votre temple, investissez dans la rédemption des hommes. C'est-à-dire qu'à chaque jour, on peut être prêt à témoigner. On peut être prêt à prier pour les autres qui vont témoigner. On peut envoyer les missionnaires. On peut donner de notre temps, donner de notre argent pour que tout homme, toute femme et chaque enfant soit capable d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas? On n'est pas ici pour avoir un petit club social. Oh, c'est fun à la vie comblée. On vient, on s'assoit, on chante, on part, on revient, on chante, on s'assoit. Non, on est là pour être équipé, rempli de l'Esprit de Dieu, aller dans notre monde et partager la bonne nouvelle. Alléluia. En fait, Luc 24, 46 dit, et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Regardez-moi, droit dans les yeux, cette année, comme jamais auparavant, on a besoin de se consacrer à cette œuvre d'amener la rédemption à tout ce qui nous entoure. Amen. On peut faire toutes sortes de choses dans la vie. Mais si on n'investit pas notre vie pour racheter les âmes, Jésus a déjà payé le prix. Notre but, c'est juste d'annoncer la bonne nouvelle. Pas juste d'annoncer en parole, mais en action et en démonstration de l'Esprit. Imposer les mains sur les malades, prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et numéro 3, comment est-ce qu'on peut bâtir une vie qui résiste au feu? Bâtir avec les pierres précieuses, en investissant votre vie dans vos relations. C'est-à-dire votre relation avec Dieu et vos relations avec les autres. On a vu tantôt que nous sommes une maison de Dieu, que Jésus est la pierre angulaire et que nous, individuellement, nous sommes les pierres vivantes. Tout le monde dit « Je suis une pierre vivante ». Donc, on voit que les pierres, souvent, ça peut représenter les personnes et les relations avec ces personnes. Voulez-vous quelque chose qui va durer pour l'éternité? C'est triste de voir les personnes qui vont passer 70, 80, 90 ans sur la terre et tout ce qu'ils ont à la fin. J'ai même entendu, laisse-moi vous dire, histoire vraie,
J'ai lu ça dans l'avion l'autre jour quand on est allé à une conférence des pasteurs. Mais il y avait un homme qui disait qu'il était à Las Vegas et en affaires. Et puis un jour, il a dit, bon, je vais juste aller me promener un petit peu dans la ville. Et au moment donné, il avait vraiment envie. Je m'excuse, mais il dit ça. Il a dit, il faut que je trouve une chambre de bain quelque part. Il n'y avait rien, sauf qu'il regardait, il y avait une église. Donc, il entre dans l'église. Il n'y a presque personne, mais c'est un service funéraire. Presque personne. Donc, il signe le registre. Et il disait, bon, mais écoute, il n'y a presque personne ici. Je pense que je vais juste rester. Par politesse. Donc, il est resté. Il a écouté le service. Et puis, il est parti. Quelques semaines après, il reçoit une lettre d'un avocat qui dit, bon, étant donné que vous avez signé votre nom dans le registre d'un tel monsieur qui est décédé telle place, qui avait un funéraire à Las Vegas, telle date, on vous envoie un chèque de 6 000 $ qui fait partie de son héritage. Parce qu'il a dit que, apparemment, le monsieur a dit qu'il savait qu'il n'y a pas grand monde qui allait venir à son funéraire. Il a dit, si quelqu'un prend la peine de venir à mon funéraire, donne-y une partie de mon héritage. Vraie histoire. C'est drôle, mais c'est triste. Le monsieur, de toute évidence, il avait de l'argent, mais il n'avait pas d'amis ou pas de famille. Quelque chose, n'est-ce pas? Donc, arrivé au ciel, on ne sait même pas. Mettons qu'il était chrétien, mais de nouveau, mais charnel, mais il arrive au ciel, qu'est-ce qu'il a? Rien. Donc, baptisé avec de l'or pour la gloire de Dieu, baptisé avec de l'argent pour la rédemption de l'humanité, et baptisé avec des pierres précieuses. Laissez-moi vous dire, il y a quelques années, le Seigneur m'a dit clairement, et c'était une chose, une vérité simple, mais tellement profonde, que la seule chose que nous avons ici sur la terre qui est éternelle, la seule chose, c'est nos relations. C'est-à-dire que ma relation avec Dieu est une relation éternelle. Dieu est mon Père pour éternité. Et ma relation avec les êtres humains a le potentiel d'être éternelle. Le potentiel. Chaque homme et chaque femme avec qui j'ai une relation qui est dans le Seigneur est mon frère ou ma sœur pour éternité. Chaque personne qui n'est pas encore dans le Seigneur a le potentiel de devenir mon frère dans le Seigneur pour éternité. Donc vous savez, ce n'est pas les programmes. Ce n'est pas les programmes qu'on peut faire dans l'Église. Ce qu'on fait est moins important que qui on est. Et cette année, je sais que le Seigneur veut qu'on mette l'accent. Tout le fruit de notre ministère doit être le fruit de notre relation avec Dieu et notre relation avec le corps. C'est Jésus qui est la pierre angulaire, mais nous sommes les pierres vivantes. Donc, comme je parlais avec Claude l'autre jour, Claude a dit quelque chose qui était vraiment fort. Il a dit que, vous savez, notre priorité numéro un devrait être, si on est vraiment les pierres vivantes dans le corps de Christ, de trouver tous ceux et celles qui sont les pierres qui sont supposés d'être à côté, en bas, en haut, à gauche et à droite, et de commencer à développer un lien avec ces autres pierres. Amen. On parlait des groupes d'impact tantôt. Ça, c'est une clé primordiale aussi. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble? Comment est-ce qu'on va porter du fruit ensemble? Il faut se connaître. Il faut avoir une relation authentique d'amour les uns pour les autres. Amen. Et regardons qu'est-ce que la parole de Dieu dit, juste pour terminer. Alléluia. 1 Jean 1:3 dit que ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion, en relation intime, on pourrait dire même, avec nous. Or, notre communion avec le Père est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc ici, on voit, on est appelé à être en communion avec Dieu et avec nos frères et nos sœurs. 1 Jean 3:13 dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est quoi l'épreuve? Le vrai test de voir si on est vraiment enfant de Dieu? On connaît notre Bible par cœur. Je peux citer 100 versets de la Bible dans 100 versions différentes à 100 000 $.
je suis enfant de Dieu. Ou moi, je travaille dans l'église, je chante à l'église, je fais telle chose, je prêche à l'église, je suis pasteur d'une église. Est-ce que c'est ça la preuve de notre relation avec Dieu? Non, il dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qui nous a donné, il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Tout le monde dit ceci, j'ai besoin de donner ma vie pour les frères. Et finalement, Jean 13:35 dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir une vie qui résiste au feu, pour avoir une église résistante au feu? On va bâtir avec de l'or. Tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Si je ne peux pas dire, je le fais pour la gloire de Dieu. Si ce que je fais ne peut pas en aucun sens, par aucune manière, rendre gloire à Dieu, je ne devrais pas le faire. Amen? Posez-vous la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour amener la rédemption au monde? Est-ce que je peux témoigner? Est-ce que je peux envoyer des missionnaires? Est-ce que je peux prier pour la moisson? Seigneur, je veux bâtir pas juste avec de l'or, mais avec de l'argent. Et Seigneur, cette année, en 2005, aide-moi à bâtir avec des pierres précieuses. Les autres personnes dans le corps de Christ, aide-moi à être en relation, pas juste avec toi, Père, mais aide-moi à développer et à nourrir mes relations avec mes frères et mes sœurs dans le corps de Christ. Et aide-moi à développer les liens et une relation avec ceux qui sont dehors l'Église pour qu'ils puissent devenir les pierres vivantes. Il y a des pierres mortes aujourd'hui qui ont besoin de vivre. Mettez-moi en contact avec ces pierres mortes pour qu'ils puissent vivre. Amen? Et si on fait cela, quand Jésus a dit, je bâtirai mon Église, nous allons bâtir avec lui. L'Église, l'édifice de Dieu va être construit. On va devenir une habitation de Dieu en esprit. La gloire de Dieu va remplir la temple et la terre entière sera remplie de la gloire de Dieu. Quelle église glorieuse. On va se lever debout. On va prier. Alléluia. Des choses à méditer, des choses à mettre en pratique, n'est-ce pas? Posez-vous la question. Faites un sondage personnel. Faites le bilan de votre vie personnelle. Demandez-vous avec honnêteté, est-ce que je bâtis, Seigneur, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses? Ou est-ce que je suis en train de bâtir ma vie avec du bois, du foin, du chaume. Seigneur, aide-moi, au nom de Jésus. Si tu veux, juste merci, Jean-Charles. Avec tous les yeux fermés, on aimerait juste prendre une minute pour donner l'occasion à ceux et celles qui peuvent être présents, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Peut-être vous êtes ici et vous dites, mais moi, je veux bâtir quelque chose de solide, qui va durer, qui est résistante au feu. Mais je ne suis même pas sûr que le fondement est posé dans ma vie. Il n'y a aucun autre fondement qui peut être posé sauf Jésus-Christ lui-même. Et si vous êtes ici, j'ai une bonne nouvelle. Le salut, ce n'est pas par les œuvres de la chair, c'est par la grâce, par les moyens de la foi. Et si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, j'aimerais juste savoir, avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, « Pasteur, j'ai besoin de recevoir le don gratuit du salut. J'ai besoin d'inviter Jésus dans mon cœur pour devenir le fondement de ma vie. » Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a une deuxième personne aujourd'hui. Alléluia. Merci, Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'avoir le fondement posé dans leur vie? Moi, je vais vous demander à faire quelque chose ce matin. Parce que Jésus a dit, et je veux vraiment que tout le monde sache que l'Esprit du Saint est là ce matin. Soyons sensibles et révérents. Jésus a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père
Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Jésus a dit aussi que si tu as honte de moi devant cette génération perverse, j'aurai honte de toi quand je revienne avec gloire. Donc ce matin, j'aimerais juste inviter les deux personnes, et s'il y a d'autres personnes qui ont levé la main, je vous invite juste à prendre un pas de la foi ce matin. On va prier ensemble. Je vais prier avec vous. Mais je vous invite juste à venir ici en avant, juste avec moi, de prendre un pas. C'est important. Ça va sceller quelque chose dans ton cœur. Juste viens. Sois pas gêné. Alléluia. Sois pas gêné. Maintenant. Ceux et celles qui ont levé la main. Maintenant. Merci, Père Céleste. Alléluia. Un autre jeune homme qui s'en vient. Ça prend beaucoup de courage de faire ça. Mais il est important. Parce que c'est bon, je te félicite. Ton nom, c'est Michael. Ça prend beaucoup de courage de prendre un pas comme ça. Mais je sais, si tu es capable de dire devant ces personnes que tu aimes Jésus et que tu veux l'accepter dans ta vie, ça va te donner beaucoup plus de courage et de force et d'assurance de le dire devant les autres. Ici, vous êtes parmi les personnes qui aiment Jésus et nous t'aimons aussi. S'il y a quelqu'un d'autre qui voulait venir avec eux, on va prier. Juste reste ici. Je vais demander à tout le monde de faire cette prière. Et Michael, et ton nom encore, c'est Patrick. Vous savez que la Bible dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu ne peux rien faire pour mériter ou pour travailler pour gagner ton ciel. Tu peux juste par la foi croire que Jésus est le Fils de Dieu. Croire qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité des morts? Et si tu confesses aujourd'hui que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur, ton Maître, et tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, la Bible dit que tu vas te sauver. L'Esprit Saint va entrer dans ton cœur et va faire de toi une nouvelle création. Donc je veux que tu prie cette prière avec moi, et tout le monde, priez avec moi, s'il vous plaît. Juste répétez cette prière avec moi. Donc, priez ceci. Père Céleste, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux le servir. Merci, Seigneur. Mes péchés sont pardonnés. Je suis lavé et je suis blanc comme la neige. L'Esprit Saint habite en moi et je suis devenu une nouvelle création. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va remercier le Seigneur pour cette